Nous avons le plaisir d'accueillir au séminaire aujourd'hui Madame Claude Gauvard, professeure émérite à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est une historienne extrêmement connue, que la plupart d'entre vous connaissent elle-même par ses ouvrages, qui a été membre de l'Institut universitaire de France, qui a présidé le jury d'agrégation d'histoire, qui a présidé la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, enfin la grande société des historiens médiévistes, donc qui est une figure centrale du monde, non seulement des études médiévales, de l'histoire médiévale, mais de l'histoire tout court en France actuellement, et qui est une grande spécialiste de la justice à la fin du Moyen-Âge, qu'elle a abordée dans la perspective de l'anthropologie historique d'une façon particulièrement féconde. Et Claude Gauvard est l'auteur d'une quinzaine de livres entre ce qu'elle a écrit elle-même, qu'elle a co-dirigé. Nous en avons co-dirigé un ensemble avec Alain Libera, un dictionnaire du Moyen-Âge au PUF. Et le premier livre, qui était sa thèse, je crois, De grâce et spéciale, crime, état et société en France à la fin du Moyen-Âge, de 91, a été réédité en 2010, et on en a de nouveau beaucoup parlé à ce moment-là. Il y a eu un grand papier dans le monde des livres. Enfin, ça a été, on lui a accordé la place qu'il mérite. Donc, comme c'est une spécialiste de la justice, l'humiliation, ça la connaît, étant donné ce qu'était la justice à cette époque-là. Et elle va nous parler de l'humiliation et de la pratique judiciaire au XIVe et au XVe siècle.
Merci beaucoup, Michel Zinc. Et je dois vous dire que votre invitation me fait infiniment, bien sûr, plaisir en souvenir de cette co-direction que vous venez de rappeler, mais aussi parce que ces lieux sont évidemment très prestigieux et que je me sens très honorée, puisque je travaille sur l'honneur, après tout, je sais ce que ça veut dire, ou tout au moins j'espère savoir ce que ça veut dire. Et je me sens donc très honorée de parler devant vous, même si, après avoir écouté le cours brillant qui vient de précéder, je vais me placer dans une perspective évidemment différente, qui est celle des pratiques judiciaires, et vous dire tout de suite que je ne vous parlerai pas vraiment, mais un peu quand même, de la cruauté des supplices, qui est une image forte de la justice médiévale, mais je ne m'étendrai pas beaucoup sur la description. Non que ces supplices n'existent pas dans leur réalisation extrême, mais en fait, ces supplices extrêmes ne sont pas guère appliqués de façon fréquente. S'il est vrai que la mort par pendaison ou par décapitation ne se produit qu'à l'issue d'une dégradation antérieure du corps du supplicié qui passe par diverses phases d'humiliation et qui fait du condamné à mort l'humilié par excellence, l'application de la peine de mort est rare. Je préférerais donc évoquer le lien entre humiliation et justice à travers la diversité des peines infamantes, sans pour autant totalement négliger la peine de mort, c'est impossible, et surtout l'action des juges dans leur décision d'humilier celui qu'ils punissent, donc le lien entre peine et humiliation, justice et humiliation. D'abord, l'humiliation fonde en grande partie la justice de celui qui devrait être condamné, une humiliation qui accompagne la dérision à laquelle il est soumis. Quelques peines infamantes peuvent nous permettre d'illustrer ce propos. Il existe en effet toute une gamme de peines infamantes dont le ressort est le rire. Un rire qui s'exprime en public. La condamnation au pilori constitue une peine de cette sorte. Elle est malheureusement peu illustrée pour la période médiévale, sauf par un pilori, et encore il est contesté, qui est sculpté à la, sur un petit bas-relief situé sur la porte sud de Notre-Dame de Paris, celle qui justement n'est jamais visible, hein, où on représente un pilori avec des on pense que c'est un pilori avec des étudiants qui voient là une prostituée, hein, et donc par conséquent c'est pour les éduquer, hein, dans le fait que les étudiants ne devaient pas fréquenter les femmes mais se consacrer aux études. Malheureusement, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit un pilori, moi je le pense, mais bon, voilà. Alors, donc le pilori, en revanche, on a des représentations du XVIe siècle, hein, très importantes et très nombreuses à partir du XVIe au XVIIIe siècle. Ce que l'on sait, c'est que la condamnation au pilori était relativement fréquente et qu'elle constituait, et qu'elle consistait, pardon, en une exposition en public pendant un laps de temps déterminé, parfois en plusieurs séances, avec quolibets, jets de boue et de pierre, si bien que parfois même les ordonnances urbaines devaient limiter l'emploi de, cette pierre, de ces pierres et de cette boue par la foule, qui ne devait pas recourir à des insultes trop violentes. Je reviendrai sur cette participation de la foule, qui est un des thèmes importants de ce séminaire. Le modèle biblique, bien sûr, de cette peine, pourrait être le Christ aux outrages. J'ai patronné une thèse justement sur ce thème pour savoir s'il y avait un lien entre le Christ aux outrages et la représentation du pilori ou l'importance du pilori dans les peines infamantes. Il s'avère que c'est beaucoup plus complexe, si vous voulez, qu'une transposition complète, une superposition, si vous voulez, entre la condamnation christique et la scène judiciaire. En fait, raillerie et geste obscène perpétré par la foule constituent la réparation que la société entend apporter au crime qui a été commis. Alors que dans le cas du Christ, il s'agit d'une phase d'humiliation qui doit conduire, si vous voulez, à la crucifixion, bien sûr, qui est une phase préparatoire. Hein, alors que la peine de pilori, elle a sa justification en soi, éventuellement. Pour quel type de crime, d'ailleurs, ce sont moins des crimes de sang que des vols, des faux témoignages, des transgressions sexuelles ou des injures. C'est ainsi qu'à Amiens, en 1427, une grosse femme nommée Marion, je cite le texte, bien entendu, qui avait fait et dit « de jour en jour plusieurs opprobres, injures et vilenies aux gens d'estat et d'honneur de la ville, elle est interdite de séjour, menacée du pilori si elle y revient. » Donc voilà, c'est une peine qui est plutôt réservée aux grosses injures, aux vols, aux faux témoignages. La peine se doit d'avoir lieu dans un espace public ou en un lieu public réservé à cet effet. C'est ainsi que l'évêque de Paris a son pilori sur le parvis, hein, de Notre-Dame, et on ajoute d'ailleurs à celui qui est pilorisé un écriteau qui vient compléter la scène, un écriteau où il est indiqué deux choses très infamantes et humiliantes, son nom, d'une part, et le crime qui a été commis. Le fait même d'énoncer, si vous voulez, en public le nom de la personne et le délit, la nature du délit, c'est l'infamie, et par conséquent, ça ajoute à l'humiliation de l'exposition du corps. D'autres types de peines infamantes ont lieu dans les rues de la ville que le condamné parcourt sous les rires du public. Il en est ainsi de la peine de course, dont je crois Michel Zinc vous a déjà parlé dans son cours d'introduction et dont je reprends ici l'iconographie que vous voyez sous vos yeux, qui est réservée aux amants ayant commis l'adultère. Alors, les protagonistes, ceux qui sont donc responsables du crime, à savoir l'amant et la femme, en chemise, sont attachés par leur sexe et sont soumis à la moquerie des habitants de la ville. Vous voyez que des crieurs publics rameutent les habitants alors qu'eux-mêmes sont encadrés par des sergents qui leur permettent, qui leur interdisent, si vous voulez, de s'échapper, si tant est que la position dans laquelle ils sont soit si facile. Il s'agit d'une illustration des coutumes de Toulouse, conservée dans un manuscrit d'Agen. C'est une des rares représentations que nous ayons de la course. Et comme on l'a d'abord étudié grâce à Jean-Marie Carbas dans les villes du Midi, on a pensé que c'était une peine qui était réservée aux villes méridionales, tout simplement parce qu'on pense, et que c'est encore très ancré dans les esprits des historiens, on pense que l'honneur est beaucoup plus vif dans le Midi que dans le Nord, en jugeant par nos propres, si vous voulez, notre propre civilisation qui relègue l'honneur relatif en femmes en particulier dans les zones méridionales. En fait, à l'époque médiévale, il n'en est rien. J'ai pu constater des peines de course à Paris même, mais aussi Nicole Gontier en a constaté à Dijon, c'est-à-dire que les villes du Nord connaissent aussi ce type de course, ce type de peine, la course réservée aux amants. Alors vous allez la trouver, effectivement, cette peine extrêmement humiliante, et vous aurez raison, mais elle évite, cette peine, quelque chose de beaucoup plus grave, qui est l'émasculation de l'amant et la mort de la femme. C'est-à-dire que c'est une peine de réparation qui est totalement déshonorante pour ceux qui la subissent. Mais jusqu'où va le déshonneur ? Le mari va-t-il reprendre la femme à son foyer ? L'amant sera-t-il sauvé ? Autant de questions que nous devons nous poser et qui font que, en fait, l'adultère est un crime qui a beaucoup évolué dans sa résolution au cours du Moyen-Âge, du XIIe, on va dire, siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce XIIe siècle, dont les romans, et Michel Zank en parlerait mieux que moi, montrent qu'il faut ne pas forcément tuer la femme adultère. Et nous avons là peut-être une peine de substitution de la mort. Autrement dit, la peine infamante est parfois, comme pour le pilori, par exemple, vous voyez, quelque chose qui peut réparer le tissu, même si la mort de l'amant, son émasculation, la mort de la femme, ou ce qui lui est substitué, c'est-à-dire la relégation dans un monastère, surtout à la fin du XVe siècle, ne sont pas, pour autant, des peines négligées. Des scènes similaires peuvent être opérées à l'encontre des maris battus par leur femme, ce qui, à l'intérieur du couple, remet en cause l'autorité naturelle et la hiérarchie. Il s'agit donc d'une inversion, puisque le mari est tourné vers l'arrière de l'âne, par où sortent les excréments et les flux. Par conséquent, il y a là une humiliation corporelle extrême. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce mari bafoué est même parfois obligé de parcourir en chevauchant la ville, cet âne monté à l'envers. Il est aussi en chemise. Dans une société où, comme vous l'avez compris, depuis plusieurs séminaires, je pense, la nudité est facteur d'humiliation. Cette inversion est un déshonneur, mais elle permet, là aussi, d'éviter l'irréparable, c'est-à-dire le meurtre de l'épouse, éventuellement, qui a désobéi. Moi, j'ai des lettres de rémission, en particulier une que j'ai publiée sur une femme qui avait tenu tête à son mari en le tenant par la chemise, en refusant, en public, voilà le problème, en refusant d'aller cuire l'oison qu'il lui commandait de préparer pour sceller un contrat commercial intéressant. Elle termine cette scène, elle se termine par la mort de l'épouse. Donc là, vous avez encore une inversion qui permet, si vous voulez, d'affirmer finalement que le mari a tort de se laisser mener par le bout du nez par sa femme, mais en même temps de maintenir la hiérarchie au sein de la société. La dérision accompagne aussi l'amende honorable, une autre peine, sur laquelle je vais beaucoup revenir au cours de cet exposé, une peine qu'utilisent très fréquemment les tribunaux royaux, et en particulier le Parlement de Paris, de façon à réparer l'honneur blessé de la partie lésée. J'insiste beaucoup sur cette peine, car on l'a considérée, et encore dans des manuels récents, malheureusement, elle est citée comme peine archaïque. C'est une peine fabuleuse. Je vais essayer de vous le montrer au cours de l'exposé. Une peine fabuleuse parce qu'elle permet la réintégration, hein, et la réparation, là encore, du tissu social. De quoi s'agit-il ? Le coupable est condamné à circuler dans la ville en tenue de pénitent, en criant son fait et en criant merci à celui qui a été lésé. Il ne s'agit donc pas du tout d'une peine archaïque, même si elle est d'origine très ancienne, comme l'a très bien montré Jean-Marie Meuglin. Elle est issue de pratiques anciennes, par exemple la hachée, qui consiste à être condamné à défiler en tenant une pierre ou un autre objet symbolique, parfois même une selle de cheval, hein, sur la tête, sous les colibets de la foule, ou encore d'autres systèmes de réparation privée. J'allais dire, si vous voulez, l'origine des rites, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut beaucoup s'arrêter. Le rite, par excellence, est quelque chose de malléable. Ce qui est important, c'est l'utilisation par la société à un moment donné de tel ou tel rituel. Alors, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est qu'à l'époque médiévale, de la fin du Moyen-Âge, donc les 14e et 15e siècles, sur lesquels je travaille plus tôt, le délinquant doit être d'abord déclaré amendable par les juges, en particulier par le procureur du roi, ce qui assimile très clairement l'amende honorable à une peine. Donc, l'amende honorable, c'est vraiment une peine. Et là, je vous cite un extrait du milieu du XVe siècle, exprès, assez tardif, en 1446, Barbin, qui est donc l'avocat du procureur du roi dans cette affaire, dès qu'il y a, il y a eu information d'un côté et d'autre, et dit que tous les quatre sont amendables, donc les quatre prévenus, sont amendables, et conclut contre eux à amende honorable à l'ordonnance de la cour et profitable contre chacun d'eux de la somme de 200 livres parisis et à tenir prison, etc. Une déclaration, donc, qui vous montre très bien qu'encore au milieu du XVe siècle, l'amende honorable doit être déclarée comme une peine avant même d'être proposée et appliquée par le juge. Pourquoi ? Parce que certains prétendent échapper à ce type de peine, et en particulier les clercs. Hein ? Les clercs, parce qu'ils disent que leur condition doit les préserver de ce type d'humiliation. Donc, il s'agit pour le procureur du roi, tout simplement, de bien préciser qu'il a affaire à quelqu'un qui peut subir ce type de peine. Le déroulement du rituel confirme ensuite que l'amende est devenue une peine publique. J'insiste sur le mot. L'usage de « à tort, indûment, sans raison », je cite les textes, qui sont imposés aux coupables par les avocats, font de l'acte une infraction au droit que la justice du roi doit sanctionner, et l'amende honorable vient pour répondre comme une sanction, comme donc une peine. Mais son rituel connaît des adaptations fines sur lesquelles je vais d'ailleurs revenir au cours de l'exposé. De façon générale, je dirais que toutes les peines judiciaires sont humiliantes. Le fait d'être fouetté au carrefour de la ville, ou de l'être même sur les carreaux du Châtelet, qui n'exclut pas le public, implique la présence donc de la foule. Le fait d'être en chemise, tout simplement. Le bannissement s'accompagne du son des cloches et de l'action des crieurs publics qui annoncent la décision judiciaire et l'acte d'expulsion. La peine de mort, quant à elle, est précédée d'une dégradation de l'individu pendant le cheminement vers le supplice. Il s'agit de hisser le condamné sur une charrette d'infamie que connaissent bien les textes littéraires, et j'insiste sur l'expression « une charrette d'infamie et de boue », disent même parfois les textes, car la boue, vous l'avez vu pour le pilori, est associée à l'humiliation. Traîner sur une clé celui qui a commis un crime, avant de le pendre, ajoute à l'infamie. Et je vous dirais que nous sommes plusieurs en Europe, voire même aux États-Unis, à s'intéresser à la honte dans le supplice, et nous avons essayé de mettre en commun nos connaissances, et parfois l'historien est bien obligé de dire qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. L'usage de la clé, par exemple, est un usage qui échappe pour l'instant à l'analyse des spécialistes des questions des supplices. Pourquoi la clé ? Point d'interrogation. Donc si vous avez un jour des éclaircissements à donner, possibles, peut-être du côté de la littérature, justement, nous sommes très preneurs d'informations. Alors, les rites qui procèdent à ces dégradations, à cette humiliation, je voudrais maintenant un peu les développer, si vous voulez, de la façon dont elles sont énoncées au Parlement de Paris. L'avocat commence, en général, par réclamer la peine de mort. Dans les textes que je vous ai proposés, il y en a un, le premier, que vous avez eu dans les distribués, n'est-ce pas, qui est celui qui concerne Blanche d'Overbruck et la plaidoirie que vous avez, dont vous avez seulement un extrait, hein, est celle de Barbin, principal avocat du procureur du roi. Bon. De quoi s'agit-il ? Blanche d'Overbruck, nous sommes au milieu du XVe siècle, et Blanche d'Overbruck vient de faire assassiner son mari. J'emploie le mot assassin qui est anachronique, mais c'est quand même la signification contemporaine. Elle vient de faire assassiner son mari par le biais d'hommes de main recrutés par son amant, Pierre de Louvain, un grand capitaine de Charles VII. On est en pleine reconquête du royaume, et Pierre de Louvain, d'ailleurs, participe à la reconquête de la Normandie. Vous voyez que ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas un petit personnage que cet amant de Blanche d'Overbruck. Elle était mariée avec le capitaine de Compiègne, avec une grande différence d'âge, d'ailleurs, Guillaume de Flavy, celui-même qui avait été, d'ailleurs, accusé quelques années auparavant d'avoir opéré la mort du maréchal de Rieux, donc crime de lèse-majesté, et qui était, si vous voulez, une sorte d'électron libre dans le nord du royaume comme capitaine du roi de France. Ce n'est pas une raison pour l'assassiner, bien entendu. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que finalement, Blanche d'Overbruck bénéficie d'un certain nombre de faveurs auprès du roi, et malgré cet assassinat, elle obtient une lettre de rémission du roi de France. Je reviendrai tout à l'heure sur les lettres de rémission. Cette lettre de grâce est évidemment contestée par les héritiers de Guillaume de Flavy, disant qu'il s'agit d'un crime irrémissible. Mais elle obtient la lettre à coup d'argent. Ça lui a coûté très cher, mais surtout parce qu'effectivement, Pierre de Louvain est un protégé de Charles VII. Moyennant quoi, le procureur du roi défend le roi contre lui-même et plaide contre Blanche d'Overbruck, en disant que la lettre est effectivement irrémissible. Et comment va-t-il organiser son affaire ? Eh bien, il dit d'abord que, effectivement, Barbin, pour le procureur du roi, récitation faite du contenu des informations faites en cette partie, et du procès fait séant ex officio, et aussi des confessions de la dite Blanche, dit que le cas est très détestable et requiert que la vérité en soit sue par la bouche de la dite Blanche. Ça veut dire passer à une procédure extraordinaire pour obtenir un aveu. On glisse. J'ai coupé, mais c'est qu'on glisse. et requiert que la dite blanche soit punie de punitions corporelles et publiques, qu'il appartient selon le cas. C'est, en termes très pudiques, car la peine de mort n'est pas toujours évoquée de façon, comment dire, explicite, tant elle est grave. Mais c'est quand même commencer par dire que le cas requiert, quoi ? La peine de mort. On commence par là. Qu'il appartient, selon le cas, et comme criminel de l'aise-majesté. C'est très clair. Elle devrait être condamnée à mort. Premier élément. Et tous ses biens meubles et immeubles déclarés être confisqués à appartenir au roi. Ou au moins, sic autem, diraient les thèmes, parfois même les... qu'elle soit bannie perpétuellement de ce royaume et ses dix biens confisqués au roi et avec soi, et avec soit condamnée perpétuellement envers le roi en 5 ans. Je pose mes lunettes parce que. Voilà. Au moins soit bannie perpétuellement de ce royaume et ses dix biens confisqués au roi et avec soit condamnée envers le roi en 50 000 livres d'amende à prendre sur ses biens avant toute confiscation. Somme énorme. Somme presque rêvée, je vais y revenir. Et requiert que l'habit de deuil qu'elle porte lui soit ôté et défendu comme indigne de les porter. Et si requiert que la dite blanche soit mise en une religion au pain et à l'eau à toute sa vie, et lui soit défendu de jamais ne se marier, car elle en est indigne. Et qu'elle soit en outre condamnée à faire amende honorable au procureur du roi et à partie, en la cour de Séan, à Compiègne, à Nesle, tout échevelée, en côte et nu-pied, tenant en sa main une torche ardente de 20 livres, en disant que faussement et mauvaisement elle a perpétré le dit cas, et que pour exemple soit fait et mis tableau à mémoire perpétuelle, où soit figuré le dit cas, au dit lieu de Compiègne et de Nesle. Je reviendrai sur la suite du texte tout à l'heure, éventuellement, mais vous voyez que vous avez une dégringolade. Quelque part, on commence par la tête de mort, puis le bannissement, puis la mise en religion, puis l'amende honorable, qui n'est pas exclusive d'ailleurs de la mise en religion, comme dit le texte, et en outre. Hein. Bon. Mais souvent, ça peut être le passage de l'un vers l'autre. Hein. Là, cette humiliation, donc, si vous voulez, elle a une gradation. Hein. Je vous en donne un autre exemple. Après ce qu'il a eu récité, le contenu, toujours Barbin hein, qui parle, on est à peu près au même moment, mais c'est un autre exemple intéressant pour un homme cette fois. Il a reculé et conclu que le dit Henri Bruinant, pour les faussetés, inductions, séductions, déceptions et pervirements par lui fait en cette partie, soit puni corporellement. C'est à savoir, soit pendu et étranglé, et tous ses biens confisqués, ou au moins, soit condamné à faire amende honorable au procureur du roi et à Amiens, en chemise tenant une torche de cire ardent en sa main, en disant que faussement et mauvaisement, il a commis les dites faussetés, c'était un faux témoignage, hein, excès et délit, et en cri merci au roi et à justice, et soit pilorisé par 3 samedis S. Hall de Paris, et battu au cul de la charrette, et aussi S. Ville d'Amiens, de Béthune et de la Brunière, et flétri au front d'une fleur de lys, et aussi requiert que la sentence donnée par le bailli d'Amiens sortisse son effet, et que les résolutions et accords qui depuis s'en sont en suite soient déclarés nuls et de nulle valeur, et aussi soient condamnés pour amende profitable en la somme de 500 livres parisis à prendre sur ses biens avant toute confiscation, et soient bannis de ce royaume à toujours. Dégradations, donc, qui sont des litanies en ordre décroissant d'humiliation, mais qui passe par une humiliation, qui se termine par une humiliation qui doit être effectivement opérée, qui est celle de l'amende honorable et qui est souvent opérée. Elle. Alors que, par exemple, En ce qui concerne Blanche Auverbois, on est sûr qu'elle ne l'a pas fait. Là, en ce qui concerne Brunion, c'est pour ça que je vous ai pris ce deuxième exemple, je ne pouvais pas vous donner tous les textes. On sait qu'il l'a fait. Vous voyez ? Et par conséquent, il y a dans l'amende honorable un recours, dans cette humiliation, un recours que prennent les juges. Et on pourrait en voir, si vous voulez, encore un exemple dans les, alors cette fois dans les restitutions d'honneur qui accompagnent la dépendaison. Je m'explique. Lorsqu'un juge a mal jugé et qu'il a condamné en particulier un clerc, ce qu'il ne doit pas faire, à mort. La partie lésée, c'est-à-dire l'évêque en général, par le biais de son official ou l'évêque lui-même, ou les parents du mort, et souvent en partie conjointe, deviennent demandeurs d'une opération de restitution. C'est-à-dire que le juge doit aller en chemise, la ceinture desserrée, sans ceinture, sans chaperon, s'agenouiller devant le gibet et ramasser ce qui est ramassable, si j'ose dire, car les corps restent longtemps pendus jusqu'à désagrégation corporelle complète. Ramasser donc ce qui est possible en le mettant dans un linceul ou même en substituant le corps par un mannequin de paille ou d'osier, de le prendre, ce corps mort, dans ses bras, de le serrer et de l'embrasser en insufflant par conséquent un souffle de vie sur la bouche de celui qui n'est plus qu'un squelette ou qui la substitution d'un squelette, pour lui redonner vie, le sens, le temps de la réparation. Et ensuite le conduire jusqu'au cimetière chrétien dans lequel il doit être enterré, non sans avoir effectivement organisé une cérémonie religieuse dans l'église qui, paroissiale, le plus souvent, dont dépendait la victime, celui qui est considéré désormais comme une victime. Ces cérémonies de dépendaison s'accompagnent de tableaux commémoratifs dont nous n'avons gardé malheureusement qu'un seul exemplaire et je n'ai pas pu vous donner la représentation parce qu'elle n'est pas très bonne. Il s'agit, mais vous pouvez aller la voir puisque vous êtes parisien, au Musée des Beaux-Arts. Il s'agit d'une cérémonie d'amende honorable imposée au prévôt de Paris, qui était souvent d'ailleurs l'objet de ce type de restitution, mais pas lui seulement d'ailleurs, enfin à Paris il y en a eu quelques-unes, dont celle de Guillaume de Tignonville, très célèbre, en 1408, au moment où les Bourguignons reviennent, le prévôt de Paris qui a fait, il faut bien le dire, emprisonner plusieurs fois des clercs et qui les a condamnés à mort, a finalement été obligé de faire une amende honorable et même de construire un monument expiatoire pour se faire pardonner de ses gestes offensants. Donc cette amende honorable, elle est figée par des panneaux commémoratifs, des tableaux. D'ailleurs, vous avez vu que dans le premier texte que nous venons de lire, ça le suivait, n'est-ce pas, disant qu'il fallait qu'elle soit un tableau figuré, hein, voilà, bon, pour perpétuer la mémoire. Hein. Donc, il s'agit de tableaux de cuivre ou de pierre. Malheureusement, je le répète, nous n'en avons conservé qu'un seul exemplaire à ma connaissance. Mais je pense que là, je me trompe guère, malheureusement. Alors, donc, ces tableaux, si vous voulez, ces dépendaisons sont extrêmement importantes Hein, et elles peuvent donner lieu à des manifestations qui, vous le voyez, sont à la fois difficiles et pas difficiles à comprendre, hein, puisque elles répondent, hein, à l'infamie qui a été créée par la peine de mort, qui est l'infamie suprême. Alors, elles peuvent donner lieu, on sait qu'elles ont lieu, ces dépendaisons, et qu'elles sont l'objet de cérémonies rituelles, parce qu'elles ont lieu comme les amendes honorables, toutes les amendes honorables, les jours de marché, hein, cum magna convocatione populi. Hein. Il s'agit de restaurer la dignité de celui qui a été injustement condamné. Et la section prise par le tribunal correspond parfaitement à ce désir de restitution d'honneur. La chronique scandaleuse, à la fin du XVe siècle, cite cet exemple, on est vers 1465. Le frère d'un dénommé Laurent Guernier, de la ville de Provins, prétend que ce dernier a été injustement condamné à mort par le Parlement pour avoir tué un receveur d'impôts, car il aurait eu une lettre de rémission que le Parlement a refusé d'entériner. Donc, ce n'était pas normal que le Parlement le condamne à mort. Eh bien, que se passe-t-il ? Le frère obtient de faire dépendre le corps, de le faire mettre dans une bière qui traverse Paris en grande pompe pour se rendre à Provins, et, je cite la chronique scandaleuse, « et devant Isselbière allaient quatre crieux de la dite ville, sonnant de leurs cliquettes et en leur poitrine les armes du dit grenier, et autour d'Isselbière y avoit quatre cierges et huit torches, portées par hommes vêtus de deuil et armoyés comme d'hier. » Et en tel état fut mené, passant parmi la dite ville de Paris, jusque à la porte Saint-Antoine, où fut mis le dit corps en un chariot couvert de noir pour mener inhumé au dit Provins. Vous imaginez la scène qui vous montre à quel point, si vous voulez, cette restitution d'honneur est très importante, restitution spontanée ici, puisqu'il s'agit d'une scène qui se passe sans qu'aucune autorisation n'ait été accordée par le Parlement, et que les crieurs demandent à la foule de prier pour le trépassé qui a été nouvellement trouvé mort sous un chêne. En plus, si vous voulez, il s'agit d'une pendaison totalement infâme, humiliante au possible, car on ne pend pas sous un arbre, sur un arbre. On pend sur un gibet avec un rituel prévu à l'avance. La pendaison par l'arbre, que vous imaginez peut-être pour le Moyen-Âge, c'est une pendaison qui est totalement illicite, sauf pour les tribunaux militaires, qui exigent des pendaisons extrêmement rapides. Et si vous avez dans l'esprit, par exemple, Callot et les représentations de Callot au XVIe siècle, c'est de la justice militaire, justement. Hein, ne pas confondre avec la justice médiévale telle qu'elle s'est organisée et qui impose, justement, un gibet et un parcours ritualisé. Donc, il y a, vous le voyez, toute une gamme, je pourrais vous en citer d'autres, mais on ne va pas, évidemment, multiplier les exemples, hein, parce que ça serait, évidemment, redondant. Hein. Alors, on a, par conséquent, des ressorts extrêmement nombreux qui expliquent, enfin, nombreux, non, devrais-je pas dire cela, mais le ressort, évidemment, de toutes ces cérémonies d'infamie qui fondent l'humiliation, c'est, bien sûr, l'honneur blessé. Hein ? C'est l'honneur blessé sur lequel je ne veux pas m'étendre outre mesure non plus, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et que c'est... effectivement, évident, que l'humiliation qui a sorti la peine est fondée sur ce ressort, hein, de l'honneur blessé. Bon. Cet honneur blessé, j'ai essayé de montrer qu'il n'était pas seulement l'apanage des couches nobiliaires ou des élites bourgeoises, et qu'il était une valeur qui n'était pas non plus copié sur ces nobles et sur ces bourgeois. C'est une valeur qui explique les comportements, ou qui est inhérente au comportement des non-nobles dans l'ensemble du royaume de France, du nord au midi, du riche au pauvre, du laboureur à l'artisan. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, cet honneur est très imprègne la société. Au point que si vous injuriez quelqu'un en l'appelant par un diminutif, je inais, par exemple, ça vous paraît très gentil. Quand il s'agit d'un berger qui est déjà en marge, pratiquement, hein, de la société rurale de son village, si on l'appelle Jeunet, il prend cela comme un affront et sa fama est immédiatement remise en cause, si bien qu'il est obligé, s'il veut conserver son honneur, de riposter, de démentir et, par conséquent, éventuellement, de tuer l'adversaire. L'homicide sur l'honneur, l'homicide pour l'honneur, est un des fondements de la société médiévale. C'est un beau fait, considéré même d'ailleurs par le roi de France comme tel. Et quand il s'agit des femmes, c'est encore pire. Et la lettre de rémission que je vous ai donnée, sur laquelle je ne vais pas non plus trop lire parce que c'est très long, mais vous pourrez la lire tranquillement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit... Je vais y revenir simplement pour les termes d'humiliation tout à l'heure. Il s'agit d'un meurtre commis par deux frères sur un dénommé Longuepanse, qui était tout simplement un souteneur, et qui cherchait à recruter au maximum les filles permises. Il se trouve que devant chez lui, nous sommes à Bussy-sur-Aisne, dans le bailliage de Vermandois, et vous voyez bien que c'est très intéressant, nous sommes dans le Nord. Et pas dans le midi, j'ai fait exprès de vous donner cette lettre. Nous sommes à Bussy, dans l'Aisne, et donc en face de chez lui, il y a une jeune servante, hein, une jeune servante qui est là, qui est une fille qui est encore vierge, et il la traite de putain. Il la traite de putain plusieurs fois. Les frères ne réagissent pas au premier abord, parce qu'ils sont les confrères des enfants du dit Longuepanse. Donc la confrérie joue un rôle de pacification. Ils ne réagissent pas à l'humiliation que subit leur sœur. Et elle risque, dit la lettre, d'être moult reculée de mariage. Pourquoi ? Parce que, aux yeux de tous, le fait de l'injurier, publiquement, dans la rue, va la faire passer pour putain, tant la force des mots est constructive de la fama, constructive de l'être à l'époque qui nous intéresse. On est ce qu'on paraît aux yeux des autres, et on est ce que disent les autres de vous. Par conséquent, cette renommée est ternie, et elle va, du coup, effectivement, devenir une fille commune si les frères ne s'engagent pas. D'où un combat, une rixe, au cours de laquelle Longuepanse est tué. Bon. Donc l'honneur des femmes, c'est le point nodal, le point d'ancrage de l'honneur, hein, pour d'un honneur défendu par les hommes. Alors, je voudrais maintenant essayer de voir comment, si vous voulez, quelle est la place de la foule dans cette humiliation. Les processus d'humiliation, en effet, sont très ritualisés et la foule joue un grand rôle dans ce processus. Elle n'est pas seulement spectateur, et c'est ça que je voudrais que essayer de faire passer comme message, elle n'est pas seulement spectateur, elle participe de l'humiliation, y compris pour la peine de mort, ce qui fait que jusqu'au bout, elle peut décider d'arrêter le supplice. Un clerc, nous sommes à Meaux, qui avait été condamné à mort, se met bien avec la geôlière. Et il lui explique sans doute que il craint le pire. Effectivement, il est conduit au supplice. Et elle lui explique que, bien sûr, il va avoir sur sa tête une sorte de chape qui va montrer, pour empêcher de montrer sa tonsure. Mais qu'il faut qu'il crie très fort sur le passage. Clergy, clergy, de façon, tout simplement, à arrêter, par le biais de la foule, le trajet, la charrette qui le conduit jusqu'au gibet. De même, si vous voulez, il y a des miracles qui peuvent arrêter l'exécution. La corde qui se casse, le bourreau qui se trompe ou qui a du mal à manier la doloire, l'échelle qui est trop courte. Bref, autant de prétextes que la foule peut prendre pour arrêter le supplice. Donc la foule, dans ces spectacles, n'est pas seulement un spectateur. Elle est partie prenante de l'humiliation. Usage important, donc, place importante, correspond, si vous voulez, certainement à la place qu'elle a dans la vengeance, à la place des individus dans la vengeance, mais ça, c'est une simple hypothèse sur laquelle je passe un petit peu vite, dans la mesure où le temps, quand même, évidemment, nous tient aussi. Alors, pourquoi cette foule, si vous voulez, est là ? Parce qu'elle est en grande partie dépositaire des normes tacites qui régulent l'humiliation. J'ai parlé tout à l'heure de la course sur l'âne. Nous n'avons aucun texte qui nous définisse la façon dont ce rituel s'organise. C'est la coutume qui l'organise. C'est la tradition orale qui l'organise. Éventuellement, une tradition conservée par le roi des ribauds ou par les jeunes qui jouent dans leur rôle de conservatoire des rituels d'humiliation réservés, si vous voulez, à la foule. Vous voyez ? Donc il n'y a pas que la justice, il y a ce qu'on pourrait appeler, nous, une para-justice. Une para-justice, ce terme, je ne l'aime pas trop, ou une infra-justice, je l'aime encore moins, j'aime encore mieux para-justice, qui permet, si vous voulez, de réguler ces rites et qui montre que, finalement, la foule a son rôle à jouer. Et je voudrais quand même vous donner un exemple de rite d'humiliation très intéressant, organisé par la foule, et par le peuple, si vous voulez, en dehors des critères juridiques. Nous sommes en Seine-et-Marne actuelle, à Andivilliers, près de Meaux, début 15e siècle. Deux petits villages, distants de 5 km, pas plus, peut-être même moins, j'ai mesuré, mais ce n'est pas si facile, parce que je ne sais pas quelle est la limite exacte des terroirs à l'époque, moins de 5 km. Très liés donc par un certain nombre de rituels, de mariages en particulier, mais pas seulement, d'échanges des biens et en même temps de rivalité, vous vous en doutez. Font s'affronter sur un tas de fumier deux teigneux. J'insiste sur le tas de fumier qui est un lieu sur lequel se passent beaucoup de choses. Des viols fictifs, par exemple, en termes de vengeance. Les deux teigneux s'affrontent donc devant, on peut l'imaginer, un jour de fête, devant les deux communautés, devant la foule en public. On choisit, pour cet affrontement, quelqu'un qui a une tare physique. Ailleurs, le bourgeois de Paris raconte que ce sont deux aveugles. Cet affrontement de deux personnes aux limites de la normalité, en tout cas aux yeux des gens du Moyen-Âge, se termine par un meurtre. par un homicide, ce qui me vaut d'avoir une lettre de rémission, Dieu merci. La thérapeutique, donc, de rivalité, la thérapeutique, qui était le but, pacifier les deux communautés, bien entendu, a avorté. Pourquoi ? La scène se termine effectivement par le cri d'une vengeance revenue en force et qu'on aurait voulu écarter. Tuer tout, malgré Dieu. Pour quelle raison ? Eh bien, l'un des teigneux dans la lutte a perdu ses brais et laisse voir ses parties génitales. La dérision initiale qui était codée atteint ici l'indicible. Une humiliation trop forte, plus forte que celle qui était requise pour ces humiliés de la vie et qui est stoppée pour laisser place à l'indignation des supporters de celui qui a perdu ses brais. Eux souhaitent que la lutte s'arrête, car leur honneur est en jeu devant ce spectacle devenu impudique. La partie adverse veut que le combat continue, d'où l'altercation et le cri « tuez tout ». Nous sommes là dans une résolution totalement tacite, où l'humiliation est effectivement un ressort de la société, parce que c'est une société à honneur. Je voulais quand même vous donner cet exemple, parce que je trouve c'est un des plus superbes que je connaisse, sur le lien entre l'honneur et l'humiliation dans la parajustice médiévale. Et je voudrais voir maintenant, pour terminer, dans un troisième grand point, l'évolution et les limites de l'humiliation telles que j'ai pu les percevoir. D'abord, il est extrêmement difficile de savoir ce que ces rituels infamants doivent à la culturation chrétienne, en particulier à la pénitence publique, dont on sait, après les travaux de Catherine Mansfield, qu'elle n'est pas totalement abolie à la fin du Moyen-Âge, ou encore aux cérémonies d'excommunication et de réintégration dans l'Église. En ce qui concerne la pénitence publique, je sais par un texte de Gerson inédit, mais qui est maintenant édité, que j'ai édité avec Gilbert Huy, sur l'infanticide, que c'était une peine particulièrement humiliante, aux yeux même du grand personnage qu'est Gerson. En ce qui concerne l'excommunication, on sait aussi qu'un certain nombre de manifestations étaient particulièrement humiliantes, et je vous renvoie au livre de Véronique Boland, qui est une de mes élèves, là, qui a travaillé sur justement l'excommunication et sa représentation textuelle. Mais je voudrais revenir à l'amende honorable. La nudité, l'absence de chaperon, de ceinture, de génuflexion et le port de torches dans les mains, pour ne parler que des gestes et des apparences, sont autant de manifestations qui assimilent le coupable à un pénitent. Pour l'illustrer, on peut regarder tout simplement. Alors, voilà. Cette scène extraite de Froissart, les bourgeois de Calais. Nous sommes les 3 et 4 août 1347 au siège de Calais. Et six bourgeois sont venus faire amende honorable, n'est-ce pas, devant Édouard III, la corde au cou, qui plus est. Jean-Marie Meuglin, auquel je vous renvoie dans son magnifique livre sur les bourgeois de Calais, montre très bien que la corde au cou, c'est un rituel d'humiliation, effectivement, mais qui ne conduit pas forcément à la peine de mort. Il ne risquait pas la mort. On est vraiment dans la perspective que j'ai décrite tout à l'heure, d'une peine, si vous voulez, qui vient se substituer à la peine de mort. C'est pour ça que la peine de mort n'est pas si fréquente. Bon, ou vice-versa. Bon, alors, simplement, revenons à ce que disent ces hommes. Ils crient merci. Ils crient merci, mais ils ne se contentent plus de dire qu'ils ont agi faussement et mauvaisement. il demande à l'adversaire de pardonner. C'est-à-dire que le mot merci a évolué et qu'il devient désormais synonyme ou quasiment synonyme de pardon. Hein ? Et je cite un texte de 1465 où l'un des hommes d'armes venus de Normandie qui avait injurié les bourgeois de Paris en les appelant traîtres bourguignons en 1465, ça peut coûter effectivement très cher, il est condamné à une amende honorable devant l'hôtel de ville et le procureur de la ville, c'est-à-dire d'aller pour toute la ville, nu-tête, dessin, une, donc, sans ceinture, une torche au poing, en disant que par lui, et faussement et mauvaisement, il avoit menti, en disant les dites paroles, donc ça c'est le système classique, traditionnel, et on ajoute « en priant et requérant icelle lui être remise et pardonnée ». Tout est dit. Hein ? L'humiliation s'accompagne désormais du pardon, hein, même si la peine, effectivement, est bien sûr très vivante. Cette amende honorable peut s'accompagner de fondations de messe et de peines liturgiques, comme c'est le cas pour Blanche d'Overbruck, dont nous avons vu tout à l'heure le texte. Et la signification religieuse de l'amende honorable s'est d'ailleurs accentuée au point qu'au Parlement, les juges demandent, à la fin du XVe siècle, de faire amende honorable à Dieu d'abord, avant de la faire au roi, au juge et à la partie lésée. En second lieu, les juges ont, si vous voulez, la justice, hein, bien sûr, s'est emparée de l'amende honorable. Je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais ils se sont emparés de l'amende honorable au point, si vous voulez, d'en faire leur affaire et de dire que d'abord, le prévenu doit faire amende honorable devant eux, avant même la partie lésée. Donc entre eux, si vous voulez, l'amende honorable originelle, où c'était la partie lésée qui réclamait, et puis l'amende honorable de la fin du XVe siècle, nous avons une énorme progression qui conduit de la partie privée à la justice du roi et à Dieu. Je voudrais surtout insister, bien entendu, sur le deuxième texte maintenant, et le lien entre la grâce royale et l'humiliation des sujets criminels. La série des lettres de rémission montre que le pouvoir royal s'est autant affirmé par la grâce que par la coercition. L'apparition de ce type de document au début du XIVe siècle, la première lettre conservée de 1304, c'est une invention extraordinaire du pouvoir justicier. Aussi importante que celle des tribunaux et de la justice déléguée en général. Elle accompagne, en effet, la genèse d'un pouvoir justicier qui, je le rappelle, et j'insiste là-dessus, n'a pas été donné en soi. Ça n'est pas parce que les textes théoriques disent que le roi de France est le juge suprême qu'il exerce la justice dans le royaume. C'est une construction historique. Il y a une histoire de la justice du roi. Et par conséquent, la grâce entre dans cette construction. Comment ? Justement, en créant un sujet suppliant dont la requête s'appuie sur le pouvoir miséricordieux du roi. Regardez le texte que vous avez devant vous. Et cette fois, non pas du point de vue du crime lui-même, mais du point de vue des formules sur lesquelles on n'a pas beaucoup travaillé, et c'est peut-être l'un des avantages de mes propres travaux, si vous venez d'avoir accentué le côté dit stéréotypé de ces lettres. Et encore, je ne pouvais pas vous en donner plusieurs, mais croyez-moi, surtout à la suite du séminaire que vous venez d'entendre de Michel Zinc, bien des lettres commencent par « pauvre suppliant ». Pauvre suppliant. Et beaucoup de mes prédécesseurs ont commencé par se dire « voilà, ils sont tous pauvres », au sens de la richesse. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Zinc. Et moi-même, pour démontrer qu'il ne s'agissait pas de cette pauvreté, j'ai dû, mais c'était effectivement dans les années 80, j'ai dû commencer par essayer de savoir si ceux qui requéraient la grâce étaient riches ou pauvres. Parce que je ne pouvais pas faire cette économie historiographique. Vous comprenez ? Bon. Et bien entendu, j'en ai déduit ce qui vous a été enseigné tout à l'heure. Pauvre, cela veut dire humble. Pauvre, c'est humble. Pauvre, c'est celui qui s'est vidé de sa substance, en quelque sorte, pour acquérir l'humilité. Ou qui s'est empli d'une autre substance, on va le voir. Nous avons reçu l'humble requête de Jacques de Marval de Bussy-sur-Aisne, père de Girard et Lambin, frère. Voilà, on commence par là. Il s'agit de requérir le roi, soi-même ou par le biais de ses parents, en opérant une véritable mutation interne, quoique fictive, bien entendu, qui s'inspire de l'attitude pénitente individuelle telle qu'elle a été valorisée par Latran IV en 1215. Une mutation intérieure qui précède la déclinaison d'identité, qui voit justement par ce biais cette déclinaison d'identité administrative transformée. Puis l'humilité apparaît dans la deuxième partie de la lettre. Je vous ai mis du gras exprès, hein, pour qu'on aille plus vite. Associé cette fois aux formules de chancellerie qui précèdent la grâce. Le roi accorde la grâce pour deux raisons. Parce que le sujet s'est montré humble et parce que lui-même détient le pouvoir de délier. Un pouvoir que Dieu lui a concédé, car la miséricorde dont il use est fille de Dieu, je vous le rappelle. Les formules utilisées sont en grande partie stéréotypées, c'est vrai, mais elles font allusion soit à la pitié, soit à la miséricorde du roi. Voulons avoir pitié et être miséricordieux, dit le texte. Une pitié, une miséricorde supérieure, non pas à la justice, mais à la rigueur de justice. Hein ? Ce que les théoriciens savent très bien dire en disant que le roi doit tempérer la rigueur de justice par la miséricorde. Alors, évidemment, la grâce peut d'ailleurs aussi être assortie de peines liturgiques supplémentaires qui prolongent l'humiliation. C'est le cas ici. Il faut qu'ils aillent faire des pèlerinages et qu'ils en rapportent certification. L'acquis de la lettre est donc à la fois religieux et politique. Du point de vue politique, au sens large, et plus précisément au sens étroit dans le domaine judiciaire, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le roi fait entrer tous les crimes commis dans le royaume dans le fil de ses raies. Il est devenu maître des crimes énormes dont on peut requérir le pardon à ses yeux. Cette humilité lui permet, de façon presque quasi miraculeuse, de restituer celui qui a commis le crime à sa bonne femme et renommée, à sa fama initiale, à sa renommée et au pays, et à voir ses biens non confisqués. Coup de maître extraordinaire qui valorise bien sûr le pouvoir royal en ce sens que il, je le répète, fait entrer dans ses raies tous les crimes, y compris ceux qui étaient difficilement condamnables, même s'il s'agissait d'homicide, les crimes justement commis pour l'honneur. L'homicide commis pour l'honneur a mis beaucoup de temps à entrer en justice. Et encore des théoriciens du droit au XIIIe siècle, je me fie bien entendu aux travaux de Jean-Marie Carbasse, encore une fois, disait que c'était un crime qui ne justifiait pas, hein, de jugement même. Fin XVe siècle, un pénitentiel dit encore qu'un crime commis contre l'honneur est beaucoup moins grave que la pollution. Donc, vous voyez que dans l'échelle des crimes, ce n'est pas si simple. Donc, l'entrée de l'homicide, c'est un coup de maître. Et le roi, par conséquent, accroît sa puissance judiciaire. Il accroît aussi une fidélité. Il accroît une suggestion. Et une suggestion qui s'est fondée sur l'humilité. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est le sujet de votre du cours, et un thème de réflexion important, me semble-t-il. La suggestion liée à l'humilité. Comment s'opère cette alchimie, hein, qui fait que, quelque part, il y a justement ce respect qui se met en place et qui s'accroît, dans le cas de ces criminels, de l'amour du censeur, pour parodier un livre célèbre. De ce fait, le bénéficiaire devient un bon sujet, qui est donc restitué à la bonne conversation au sein du royaume, une notion qui reprend les définitions aristotéliciennes, sans aucun doute, de la vie en société. Partager la même langue, peut-être, mais aussi et surtout les mêmes rites de convivialité qui font le lien entre les sujets. En conclusion, je dirais que cette humilité telle que je la vois dans la justice, c'est un équilibre entre les forces. N'imaginons pas, par une vision téléologique, que la justice du roi a écrasé les forces locales et qu'elle a fait plier les sujets à coups d'humilité. L'exercice de la justice au plus haut niveau, celui du Parlement de Paris, permet, vous l'avez vu, de nuancer considérablement les choses. L'évolution est beaucoup plus complexe que cela. Le Parlement a effectivement monté en, comment dire, s'est fondé, je crois, sur quelque chose de beaucoup plus subtil qu'un écrasement des sujets par la justice. Je l'ai dit, je l'ai écrit, le Parlement ne juge pas, pratiquement pas, très peu de sentences définitives. Le Parlement fait la paix, le Parlement dit les normes, le Parlement montre la voie aux justices locales. Oui. Par quel biais ? En utilisant justement le ressort de l'honneur, tout autant que le ressort du droit. Cette fameuse amende honorable dont j'ai parlé, hein, et aussi cet art oratoire extraordinaire qui fait que l'on passe d'une peine maximum à une peine minimum, qui est le sens même de la négociation réparatrice. Hein ? Le Parlement a finalement discipliné, en même temps qu'il a utilisé les peines infamantes. Il les a transformées en peines du roi. Et pour ce faire, il les a rêvées autant, et même plus peut-être qu'il ne les a appliquées, pour qu'elles puissent finalement satisfaire à la fois l'honneur du roi, la partie adverse, et sans doute les juges eux-mêmes. Je le disais en aparté à Michel Zinc tout à l'heure, à la suite du cours. N'oublions jamais que ces juges jugent en ayant Dieu devant les yeux. Ils ont au-dessus d'eux, au Parlement de Paris, ce magnifique retable que vous pouvez voir au musée du Louvre, qui vous montre tout simplement le Christ et son enseignement. Et le roi qui prend les traits de l'apôtre, hein, c'est Charles VII. Allez le voir et vous comprendrez la masse religieuse qui pèse sur le dos des juges. Ils doivent donc se justifier devant Dieu des humiliations successives qu'ils imposent au sujet du roi et s'assurer de la rédemption, finalement, de ceux qu'ils ont jugés en même temps que de la leur. L'avantage de l'humiliation est donc énorme en justice. Elle permet la réintégration possible de l'individu dans la société qu'il a copieusement humiliée par le biais de la foule, humiliée sur le théâtre de la justice, n'est-ce pas finalement permettre de renaître ? Merci.